si certains journaux ne seraient pas intéressés là, parce que on a été très ébranlés par les nouvelles du séisme qui a frappé Haïti. Et puis, il y a eu un effort considérable d'entraide par rapport au peuple haïtien. Mais je suis à peu près certain que pour la majorité des gens, ça donne l'impression que c'est resté après ça, là, que c'est sorti de l'actualité. Puis, pour ma part, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon résumé de la situation actuelle, là, au plan politique, au plan social. Alors, je sais pas, peut-être que ça rendrait service là à l'ensemble de la population si en page 5, par exemple, du Soleil, là, on publiait ça à un moment donné, probablement qu'on mettrait pas les passages qui lui sont plus personnels, là, mais au plan journalistique, là, je trouve que c'est un bon document. Un léger commentaire aussi au sujet de Laurette. J'ai participé aux funérailles de Laurette et croyez-moi, il y en a qui étaient là. D'ailleurs, c'était vraiment mémorable. Un peu plus proche encore, oui. Bon, c'était vraiment mémorable. D'abord, Laurette avait préparé ses funérailles avec l'abbé André Breton. Tout avait été prévu dans le détail, les chants, les prières. Elle avait composé un poème dont le thème pourrait se résumer comme ceci: « Je veux que ma mort soit comme une fête ». Et ça a vraiment pris cette allure-là, si bien que même si on portait un deuil très ressenti, on peut dire que la façon de vivre ça était vraiment festive, c'était tout à fait typique de ce qu'elle a été et de ce que sa vie nous laisse comme héritage spirituel. Je vous signale que j'ai eu le privilège de la voir à l'œuvre à João Pessoa au Brésil. J'étais à ce moment-là auxiliaire à Québec. Monseigneur Vachon m'avait demandé d'aller visiter la mission du Paraguay. Et comme les religieux de Saint-Vincent-de-Paul sont au pays voisin du Brésil, je me suis rendu là. Et j'ai eu la chance d'aller visiter là, nos implantations des religieux de Saint-Vincent-de-Paul dans le nord du Brésil, dont João Pessoa. Et j'étais avec elle, là, puis avec un de mes confrères religieux, sur le dépotoir de João Pessoa. Et c'était son milieu à elle, son milieu d'intervention. Sa maison était tout près du dépotoir. Et elle allait là quotidiennement s'occuper des gens qui vivaient sur le dépotoir, dans des tentes improvisées, couchées là, à la belle étoile, parce que ces gens-là vivent aussi du dépotoir. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire que leur seul revenu, ça provient de ce que les gens jettent. Alors, ils se tiennent là aux aguets, puis quand ils voient arriver un camion chargé de détritus là, pour venir jeter ça sur le dépotoir, ils reconnaissent à partir de leur couleur ou de leur numéro, ils reconnaissent là, les camions qui viennent des parties plus riches de la ville, parce qu'ils savent que ces gens-là jettent des choses qui peuvent être encore utilisables. Et alors, dès qu'on a déchargé ça, parfois même au risque de leur vie, parce que on recule les camions pour les vider, et puis là, c'est à qui arriveraient les premiers pour se servir, et de la nourriture qui a été jetée, et des articles là, dont on se débarrasse. Alors, on récupère ça pour la nourriture en partie. Vous devinez que c'est pas nécessairement une nourriture très saine. Et on récupère également des articles qu'on peut revendre pour essayer de se faire quelques sous. On n'a pas idée de la pauvreté que ça représente. Alors, c'était le choix qu'avait fait Laurette de s'occuper de cette clientèle-là. C'était vraiment des plus pauvres dans un pays pauvre. Du moins, le pays lui-même est peut-être pas pauvre, le Brésil, mais il y a une minorité importante de gens qui vivent dans la pauvreté la plus abjecte. Et c'est de ce monde-là qu'elle s'occupait. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que pour moi, les funérailles étaient très parlantes en raison du message qui en découlait, mais des souvenirs aussi qui m'habitaient en participant à ces funérailles. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par écouter à nouveau, parce que vous l'avez probablement entendu, ce passage de l'Épître de Saint-Pierre qui vous servait de thème cette année pour vos réunions. Vous êtes des pierres vivantes. Probablement qu'on l'a déjà lu, mais c'est encore plus parlant lorsqu'on l'écoute dans son contexte là. C'est seulement 7 ou 8 lignes, mais ça vaut la peine qu'on écoute à nouveau ce passage où se trouve cette citation « Vous êtes les pierres vivantes ». Si vous voulez bien, oui merci, quelqu'un a accepté de faire cette lecture. Je vous passe le micro. Il faut parler assez près, paraît-il.
Lettre de Saint-Pierre Apôtre. Frère, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause de Jésus-Christ. Vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Alors, c'est un texte vraiment magnifique et je sais qu'il vous a inspiré tout au long de l'année. Moi, ce matin, j'ai pensé développer surtout cette phrase qui peut vous paraître étonnante même. Cette phrase, vous serez le sacerdoce saint présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte. Quand on lit ça, vous pourriez penser que Saint-Pierre s'adressait aux prêtres. D'abord, je dois vous dire qu'à cette époque-là, quand cette lettre-là a été écrite, du temps de Saint-Pierre, on ne parlait pas des prêtres comme on peut en parler maintenant. Autrement dit, on n'avait pas encore structuré l'Église, si bien que l'élément sacerdotal qui a pris énormément de place n'était pas encore trop identifié de cette façon-là. On considérait les apôtres comme étant les évêques plutôt comme étant les successeurs des apôtres, mais ça peut vous étonner. Il semble bien qu'on ait même créé le diaconat avant de créer le sacerdoce ministériel des prêtres. C'est que les apôtres étaient débordés. Et quand ils ont été remplacés par des évêques, ils étaient eux aussi débordés dans leur travail. Et entre autres, il y avait le travail de la charité. Autrement dit, on avait des œuvres d'assistance pour aider les pauvres, pour aider les gens mal pris. Et à un moment donné, on a dit, ben, écoutez, c'est bien beau, là, mais c'est pas nécessaire d'être évêque pour faire ça. Peut-être qu'on pourrait confier ça à des laïcs. Et c'est comme ça que le diaconat a été créé. Non pas que les diacres soient des laïcs, mais au départ, c'était pas tellement très clair. Si bien qu'on a créé le diaconat, on a choisi des personnes pour s'occuper des œuvres caritatives qui étaient gérées par les évêques, pour donner un peu plus de temps aux évêques pour pouvoir annoncer l'Évangile et annoncer la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on parlait des évêques, mais on parlait aussi, on les appelait des épiscopoi, ça vient d'un mot grec, c'était la langue courante du temps, là. Puis le mot épiscopoi voulait dire surveillant. J'aime pas trop penser que le prêtre est comparé à un surveillant, mais c'était le terme qu'on employait pour dire qu'il leur appartenait de veiller aux intérêts du peuple de Dieu. et il devait organiser l'Église. Et dans l'organisation, il y avait également ce qu'on appelait des presbytéroi. Presbytéroi, vous reconnaissez là, dans l'origine, le mot prêtre. Le mot presbytère vient de là. La maison des prêtres s'appelait le presbytère, ça venait de presbytéroi, c'était la maison des anciens. On parlait des anciens. Et au départ, ce n'était pas nécessairement des ministres ordonnés, c'était des gens qui étaient responsables des communautés chrétiennes. C'est par la suite que les évêques ont partagé leur sacerdoce. Ils avaient été créés prêtres par Jésus. Ils ont partagé leur sacerdoce, et c'est comme cela qu'on a eu les trois degrés du sacerdoce. Les évêques, les prêtres, les diacres. Ce sont les trois degrés du sacerdoce, mais du sacerdoce ministériel. Mais lorsque Saint-Pierre dit « Vous êtes le sacerdoce royal », il s'adressait non pas ni aux diacres, ni aux prêtres, il s'adressait à tout le monde. Ça veut donc dire qu'il existe, qu'il existait aux yeux de Pierre, un sacerdoce qui était commun et aux prêtres, et aux diacres, et aux évêques, mais aussi aux baptisés. Et c'est de cela que je veux vous entretenir aujourd'hui. Vous êtes le sacerdoce royal, vous êtes la nation sainte. Ben, jusqu'au dernier concile, on disait, ben ça c'est des belles expressions. C'est des métaphores. C'est une façon de magnifier le rôle des baptisés. Mais évidemment, le sacerdoce, c'est réservé à ceux qui sont ordonnés prêtres. Mais le concile a dit non. Tout baptisé exerce une forme de sacerdoce. C'est le sacerdoce commun des fidèles. Il y en a qui sont appelés à une forme additionnelle de sacerdoce. Ce sont les baptisés qui s'engagent au nom de leur foi, qui témoignent de leur foi, qui vivent leur foi. Ils exercent un véritable sacerdoce. Et cela en communion avec les prêtres, les diacres, les évêques, qui, eux, exercent un sacerdoce particulier, un sacerdoce additionnel. Mais tout baptisé est appelé à exercer le sacerdoce des baptisés. Je dirais malheureusement, de même qu'il y a des prêtres qui ont cessé d'exercer le sacerdoce ministériel, il y a énormément de baptisés qui ne se sentent pas invités à vivre leur baptême, donc qui n'exercent pas leur sacerdoce royal. Mais il y en a beaucoup qui l'exercent sans le savoir. Ils le font, puis ils ne s'en doutent pas, parce qu'on ne leur a jamais dit que c'était ça. Il y en a d'autres qui ne savent pas que ça existe et qui, par conséquent, ou bien ne l'exercent pas, ou bien tout simplement l'exercent sans le savoir. Et je voudrais ce matin, justement, vous démontrer comment, comme baptisé, vous et moi, moi comme baptisé d'abord, et à un titre spécial comme évêque, mais comme baptisé, je partage avec vous ce sacerdoce commun des fidèles qui est un véritable sacerdoce. La première fois que j'ai donné, que j'ai traité ce sujet-là, c'était à la résidence cardinal Vachon. Les prêtres m'avaient invité à leur parler, ils ne m'avaient pas donné de sujet. Mais j'avais choisi ce sujet-là. C'était l'année presbytérale, l'année sacerdotale. Et justement, quand Benoît XVI a décidé qu'une année serait consacrée particulièrement au sacerdoce, il y a des théologiens qui ont grimacé un peu, parce qu'ils ont dit, quand on lit son document, on se rend compte que Benoît XVI pense aux prêtres ordonnés, au sacerdoce ministériel. Et comme on va consacrer une année entière à ça, et qu'on ne parle pas dans ce document-là du sacerdoce des baptisés, ben, c'est comme, ça peut donner l'impression que ça, là, c'est en veilleuse, ça, c'est mort. Bien, moi, j'avais dit à un de ces théologiens-là, bien, écoutez, essayez de vous imaginer que dans son document, Benoît XVI aurait dit, c'est l'année du sacerdoce presbytéral. Les gens auraient dit, c'est quoi ça, le sacerdoce presbytéral? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Bien, il a employé le terme dans un sens courant. Il a dit, c'est l'année sacerdotale. Mais en réalité, le thème de cette année-là, c'était l'année presbytérale. Ça ne niait pas le sacerdoce des fidèles, mais ça mettait l'accent sur le second sacerdoce dont je vous parlais il y a un moment, mais je ne vous parlerai pas de celui-là, là. Je vais vous parler du sacerdoce commun des fidèles et qui repose sur ce texte-là dont la petite phrase a servi de thème général pour votre année. C'est donc sous cet angle-là particulier. Alors, quand j'avais fait ma conférence, là, un peu pour attirer l'attention, j'avais convenu avec le prêtre qui s'occupait de ces activités-là, j'ai dit, mettez donc une affiche là, dans l'ascenseur, vous me demandiez quel titre donner à ma conférence. Alors, dans l'ascenseur, mettez donc « Tous et toutes prêtres ».« Toutes et tous prêtres ». Et comme les laïcs qui vivent là étaient invités également à la conférence, ben, c'était ma façon un peu de les provoquer et puis d'être un peu sensationnel. Et de fait, il y a des dames surtout qui sont venues là, puis qui ont dit, qu'est-ce qu'il va nous dire, là, Monseigneur Couture? Hein, tous prêtres, toutes prêtres, voyons donc, ça marche pas son affaire, là. Est-ce qu'il nous arrive avec des enseignements révolutionnaires? Est-ce qu'il veut contester le fait que les prêtres, que les femmes n'aient pas accès au sacerdoce? Je n'avais pas ça du tout comme thème, mais je savais que ça provoquerait un peu cette réaction-là. Et je disais ça à table devant un de mes confrères, le père Boissineau, qui est décédé depuis. Puis j'avais dit que j'avais demandé qu'on écrive ça là, dans l'ascenseur pour annoncer ma conférence. « Ouais, il dit, vous êtes un peu audacieux, Monseigneur. D'après ce que je comprends, là, vous allez enlever l'étole aux prêtres, puis vous allez mettre tout le monde en aube. » Bon, c'était sa façon... comme intellectuel, là, c'était sa façon de dire, normalement, le sacerdoce est réservé aux prêtres. Et le symbole du sacerdoce, dans son vêtement, c'est l'étole. C'est pour ça que le prêtre porte l'étole chaque fois qu'il administre un sacrement. C'est le symbole du sacerdoce ministériel. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y ait aussi un sacerdoce réel, véritable, qui est le sacerdoce des baptisés. Alors, lui, il disait ça un peu parce que c'était comme si c'était un théologien, il me comprenait très bien. C'était une façon un peu amusante de dire, ben oui, ça va surprendre le monde. Là, les prêtres, ils vont être obligés d'enlever leur aube, là, leur étole plutôt, et puis tout le monde va être en aube, c'est-à-dire dans un costume qui est pas nécessairement réservé aux prêtres, mais qu'on porte quand même lorsqu'on célèbre l'Eucharistie et très souvent les sacrements, parfois ça va te surprendre, que peu importe. Là, hein. Alors, c'était sa façon de dire, ouais, vous êtes audacieux, parce que ça va être compris comme si désormais, il n'y a pas rien que les prêtres qui sont prêtres. Et puis, également, vous dites à des laïcs qui sont prêtres, eux autres aussi, ça va être mêlant tout ça, là. Hein. Ben, je reconnais que ça peut surprendre, mais pour bien vous montrer quand même que j'invente pas ça, là, puis que je suis pas un révolutionnaire, je vais demander qu'on vous lise un passage maintenant tiré du Concile, du document le plus important du Concile, Lumen Gentium, en latin, là, mais c'est le document qui porte sur l'Église, qui définit l'Église et qui définit les rôles de tout le monde dans l'Église. Or, au numéro 10 de ce chapitre de Lumen Gentium, on a le passage qu'on va nous lire dans un moment. Alors, la fin du texte est un petit peu compliquée, là, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'affirmation très nette qu'il existe un sacerdoce réel, véritable, qui relève du baptême, conséquent au baptême, et qui est l'apanage de tous les baptisés qui veulent bien l'exercer. On a ce sacerdoce de par son baptême, mais malheureusement, on peut peut-être ne pas l'exercer si on n'est pas soucieux de ce que ça peut représenter. Et puis, je m'empresse d'ajouter encore ceci, là, pour être bien sûr que je suis bien compris, ça ne met pas en doute l'exclusivité du sacerdoce des prêtres. C'est un sacerdoce additionnel. Je vous dis ça parce que conséquemment, au Concile, il y en a qui ont tout mêlé, là, si bien que parfois il y a des prêtres qui sont allés jusqu'à dire « Ben maintenant que le Concile nous a dit qu'on est tous prêtres, tout le monde peut réciter la prière eucharistique ensemble. » Ben là, je regrette, là, hein, mais c'était le signe qu'on avait mal compris l'enseignement du Concile et que la façon de l'appliquer était mêlante pour le monde, et c'était même désastreux jusqu'à un certain point. Ça n'enlève rien au sacerdoce ministériel des prêtres, qui est un autre sacerdoce. Mais les prêtres participent aussi au sacerdoce de tout le monde, puisqu'ils sont baptisés eux aussi, et il ne s'agit pas rien que d'un sacerdoce imaginaire, symbolique, métaphorique, comme disaient certains théologiens, là, qui était un peu réticent devant ça, mais c'est un sacerdoce réel. Il y a 3 ans, je participais à une réunion des évêques et on avait comme conférencier un théologien américain qui nous avait secoué un peu. Comme c'était l'année presbytérale ou l'année sacerdotale, il avait choisi justement de traiter de ce sujet-là, mais en rappelant qu'il existe aussi un sacerdoce des baptisés. Et alors, il nous avait provoqué un peu. Il avait dit, là, vous autres, là, les évêques, les prêtres, évidemment, vous faites des baptêmes. Et puis, dès que vous avez baptisé l'enfant, le poupon, là, qui a peut-être 3-4 jours, peut-être une semaine, peut-être un an, lorsque vous l'avez baptisé, là, vous vous tournez vers lui, puis vous lui dites, désormais, vous êtes prêtre, prophète et roi. Vous dites ça, là. Puis maintenant, comme c'est en langue vernaculaire, c'est-à-dire en français ou en anglais, peu importe, là, hein, les gens entendent ça. Puis, vous leur expliquez même pas ce que ça veut dire. Ça m'avait un peu secoué. Puis je m'étais dit, c'est vrai, parce que on lit une parole de Dieu lors du baptême. Mais moi, personnellement, en tout cas, je trouvais que commencer à expliquer ça aux gens, là, c'est un peu long, même ce matin, là. Je trouve que j'ai pas grand temps pour vous expliquer un aspect théologique, là, qui est fondamental, mais qui demande d'être clair puis d'être précis pour pas que ça soit compris n'importe comment. Alors, commencez pendant le baptême, là, à commenter « Vous êtes prêtre, prophète et roi ». Oui, 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 ça risque d'avoir, d'exiger une homélie un peu longue. Puis par ailleurs, c'est un peu vrai qu'on dit ça, c'est tellement beau, c'est tellement important, et puis si on ne l'explique pas là, quand est-ce qu'on va expliquer ça aux gens? Et c'est vraiment l'endroit où c'est important de leur dire, puisque ça découle du baptême. Alors, j'embarque dans le sujet, là, je vous avertis, là, ça va être un petit peu rapide, et puis c'est un petit peu dense, mais je trouve ça tellement important. Ce que je souhaite que vous reteniez, là, c'est que, c'est ce que je vous ai déjà dit, que je répète, il ne s'agit pas d'une image, il s'agit d'un sacerdoce véritable. Nous en sommes tous et toutes dépositaires, et ça entraîne des droits et des obligations comme appartenant à cette Église dans laquelle nous entrons au moment de notre baptême. Bon, alors allons-y. D'abord, je fais une comparaison avec ce que nous avons vécu, pour la plupart d'entre nous, à notre baptême. Si vous avez été baptisé avant 1969, on ne vous disait pas « vous êtes prêtre, prophète et roi ». C'est bien de valeur, mais on ne vous disait pas. Et il n'y en a peut-être pas tellement parmi vous qui ont été baptisés depuis 1969. Mais si c'est le cas, là, on vous a dit « vous êtes prêtre, prophète et roi ». Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne vous le disait pas, que ça ne vous donnait pas, c'était le même baptême qui était donné. Mais dans les prières, dans les formules, on avait un accent différent. On insistait beaucoup sur le fait que le baptême nous faisait entrer dans l'Église. Mais on insistait beaucoup aussi sur le fait que le baptême nous libérait des conséquences, pas des conséquences, mais du péché originel lui-même. Et on mettait l'accent beaucoup là-dessus. On disait, le baptême nous libère du péché originel. Non pas des tendances conséquentes au péché originel, mais on est libéré de la tâche du péché originel. Bon. J'ai mon petit catéchisme ici devant moi, là. Ça vaudrait quasiment la peine que je vous dise ces passages-là. Je disais que je l'ai, mais en tout cas, peu importe. C'est peut-être mieux que je ne l'aie pas, parce que ça va rallonger mon affaire. Hein. Mais vous vous souvenez de votre petit catéchisme. Et ma grand-mère s'en souvenait tellement bien, elle, que le jour où je suis venu au monde à 4 heures du matin, lorsque la madame qui avait joué le rôle de sage-femme, parce que je suis venu au monde dans la maison chez nous, là, hein, elle a voulu me déposer entre les bras de ma grand-maman. Puis la grand-maman a dit, ma mère m'avait raconté ça, la grand-maman a dit, « Non, je le prendrai dans mes bras quand ce ne sera plus un petit démon. » Évidemment, ça vous fait rire, puis moi aussi, mais je ris jaune un peu, hein, parce que je trouve ça épouvantable. Je trouve ça épouvantable qu'en raison de cette conception de ce que des effets du baptême, que avant que je sois baptisé, j'étais comme possédé du démon. C'est pas ce que le petit catéchisme disait, remarquez, mais dans la mentalité des gens, ça revenait un peu à ça. Et puis, c'est ce qu'exprimait ma grand-mère. Et puis, ça découlait un peu de la formule du baptême. La preuve, je vais vous lire qu'est-ce qu'on disait lorsque l'enfant arrivait porté par la porteuse, parce que la mère n'était pas là la plupart du temps. Comprenez, moi je suis né à 4 heures du matin. à 4 heures d'après-midi, là, ma mère ne pouvait pas être là. On était à 11 kilomètres du village. Il fallait se rendre là, là pour se faire baptiser. Et puis, le plus vite possible. Le plus vite possible. Alors, ça n'est qu'en soirée que maman a pu prendre le petit Maurice dans ses bras parce que ça n'était plus un petit démon. Mais où est-ce qu'elle avait pris ça? Ben, j'ai envie de dire, elle avait pris ça probablement dans la traduction, dans ce qu'elle avait compris, tout au moins, du formulaire du baptême. Je vous cite ce que j'ai retrouvé dans mon vieux Don Gaspard Lefebvre. Il y en a peut-être qui se souviennent du missel Don Gaspard Lefebvre, un gros missel épais comme ça, là, qui traduisait tous les textes des messes puis des. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Je vous lis ça, je ne l'invente pas, croyez-moi. On nous disait, un instant, bon, en traçant le signe de croix sur le front de l'enfant, le prêtre disait, « Toi, démon maudit !» Je vais attendre qu'on change la... Le prêtre disait, devant le poupon, là, oubliez pas ça, là. Heureusement, c'est en latin, personne ne comprenait, ou à peu près, c'est là, là, hein. Encore moins d'enfants, il va s'en dire. Le prêtre, donc, disait, toi, démon maudit, n'aie jamais l'audace de le profaner. Ah, oh, mais c'était pire que ça encore, excusez. Ça, c'était la deuxième formule. Ça, c'était après le baptême. Mais la première formule, c'est encore plus grave que ça. Voyons, il faut que je le retrouve. Ah bon, ça va venir. Retire-toi. Démon maudit, retire-toi de cette créature de Dieu. C'était ça qu'on disait en faisant le signe de croix sur le front de l'enfant. Alors que maintenant, on invite les gens à faire le même signe de croix sur le front de l'enfant, et puis on leur dit, ben maintenant, on t'accepte, on t'accueille dans l'Église de Dieu, et ça sera complété par le baptême qu'on va te donner tout à l'heure. Vous voyez que ça a changé d'allure, hein? Et c'est important que ça ait changé d'allure. Et une fois que l'enfant a été baptisé, voilà la formule magique, je dirais, que je vais vous commenter. Par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, le Christ, t'a libéré du péché, et t'a fait renaître de l'eau et de l'esprit. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque de l'huile sainte, et là on fait le signe de croix avec le Saint-Crème, pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Prêtre, prophète et roi. Et pendant que le prêtre fait cette onction, avec le Saint-Crème, ben, il pose un geste symbolique qui rappelle le geste du couronnement royal. Quand on couronnait un roi et qu'on le déclarait roi, on lui faisait une onction. Puis croyez-moi, c'était pas rien qu'une petite onction comme ça, là. On lui versait de l'huile du Saint-Crème sur la tête. Au point de vue hygiénique, là, ça devait être un peu embarrassant, là, mais en tout cas, peu importe là, comment on réglait le problème après, mais c'était un geste d'onction. Quand on donnait l'onction, c'était avec de l'huile, on oignait la tête du roi. Alors, c'est en rappel de ça qu'on oint la tête de l'enfant, non pas en lui versant de l'huile sur la tête, mais en traçant un signe de croix avec le Saint-Crème. Et c'est en faisant ce geste-là qu'on lui dit qu'il est prêtre, prophète, roi. Prêtre, ça veut dire quoi? Prêtre, ça veut dire être chargé de présenter les valeurs éternelles au peuple de Dieu. C'est ça le rôle du prêtre. Et le seul qui pouvait faire ça vraiment, c'était le Christ lui-même. Puisque par nature, il était à la fois Dieu et homme. Et comme Dieu, il était le témoin des valeurs spirituelles, des valeurs éternelles, des valeurs célestes. Mais comme homme, il s'était incarné, il était présent sur la terre et il continuait là à être témoin des valeurs du ciel. Autrement dit, le rôle du prêtre, c'est d'être témoin des valeurs célestes. Et en ce sens, tout baptisé doit être témoin des valeurs célestes, des valeurs éternelles, des valeurs du ciel. De sorte que seul le Christ pouvait vraiment être prêtre. Tout sacerdoce, que ce soit le sacerdoce des prêtres, que ce soit le sacerdoce des baptisés, tout sacerdoce est une participation au sacerdoce du Christ, puisque lui seul peut être vraiment prêtre, de par sa nature. Mais il a voulu partager son sacerdoce, et il le fait avec tous les baptisés, mais d'une façon particulière avec les prêtres ordonnés, ceux qui sont dotés du sacerdoce ministériel. Et comme les sacrements sont les moyens donnés à l'Église pour sanctifier le peuple de Dieu, eh bien, le prêtre, qui est le ministre des sacrements, a un témoignage particulier à donner. Et ça découle de son sacerdoce ministériel comme prêtre. Mais tout baptisé jouit d'un sacerdoce fondamental commun à tous les baptisés, et lui aussi a comme mission d'être le témoin des valeurs éternelles et qui sont contenues dans l'Évangile. Donc, être prêtre de par son baptême, c'est d'être témoin des valeurs de l'Évangile. Et ça, c'est le fait de tous les baptisés. Prêtre, prophète. Qu'est-ce que ça veut dire d'être prophète? Il y a deux façons de comprendre le mot prophète. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes, Jérémie, Zacharie, Moïse, etc. Ces prophètes étaient envoyés par Dieu pour préparer le peuple juif à l'arrivée du Messie. Le peuple juif attendait toujours le Messie, le libérateur d'Israël. Malheureusement, on a fini par le comprendre dans un sens trop politique, étant donné que les Juifs avaient été conquis, d'abord par Babylone, et puis après par le peuple, par l'Empire romain. Les Juifs étaient sous la tutelle de Rome. Et les gens disaient, un jour ou l'autre, on va retrouver son indépendance, et ça va être le Messie qui va nous être envoyé. Et on entendait le terme Messie dans un sens très politique, qui a mêlé les choses passablement. Si bien que quand Jésus est arrivé, lui a dit, non, moi je suis pas venu ici pour libérer Israël. Moi je suis pas un libérateur politique. Moi je viens ici pour vous introduire dans un royaume, mais un royaume spirituel. Alors les Juifs disaient, qu'est-ce que c'est ça là? C'est un faux Messie ça. Ça, c'est un faux libérateur. On a eu de la difficulté à l'accepter. Mais Jésus voulait absolument qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne le prenne pas pour un chef politique. Même s'il se disait roi des Juifs, c'était roi des Juifs dans le sens spirituel du terme. Et nous sommes tous appelés de par notre baptême à continuer ce que le Christ nous a apporté, donc à être des prophètes. Mais non pas dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire quelqu'un qui prédit l'avenir, mais quelqu'un qui dit, qui parle, qui dit sa foi devant le peuple. Ça vient d'un mot latin, un mot grec plutôt, prophémie. Phémie, ça veut dire « je parle », mais « pro », ça peut vouloir dire « avant les autres », puis ça peut vouloir dire « devant les autres ». Alors, quand on parle avant les autres, on est prophète dans le sens qu'on annonce l'avenir. On annonce des choses que les autres ne savent pas. Mais dans un sens plus courant, on est prophète lorsqu'on dit sa foi devant les autres. Et ça, c'est une des tâches du baptisé. D'être roi, d'être prêtre, d'être prophète et d'être roi aussi. Mais d'être roi, ça peut vouloir dire quoi ça, hein? Être roi. Là encore, Jésus a dit, « Moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Être roi au sens de l'Évangile, c'est être au service des autres. Et c'est pour cela que Jésus, avant de partir, au moment où il a institué justement l'Eucharistie et le sacerdoce ministériel, Jésus a voulu rappeler à ses apôtres qu'ils devaient être au service des autres. Et c'est comme cela qu'il a été amené à poser ce geste qui était le geste des esclaves, des serviteurs, dont un des rôles était de laver les pieds des gens qui arrivaient, des invités qui avaient marché du pied dans le sable, dans la terre. C'était un geste d'accueil que de laver les pieds, mais c'était un rôle qui était rempli par des esclaves, par des serviteurs. Jésus a voulu poser ce geste-là pour montrer qu'il était au service des autres. Puis il a dit, ce que je vous ai fait, là, faites-le aux autres. Ben, c'est ça, être roi, selon l'Évangile. Évidemment, ça paraît contradictoire avec la notion qu'on a du roi. Mais quand on lit l'Évangile, puis qu'on comprend ce que Jésus a fait et le geste qu'il a posé, ça devient évident, ça devient manifeste. Prêtre, prophète, roi, c'est ce que nous devons être à partir de notre baptême. Bon, comment ça va se faire? Et c'est par cela que je vais terminer, ça va être la dernière partie de mon exposé. J'ai été obligé d'être court un peu, d'être rapide, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un sujet qui est quand même assez costaud, hein? Qu'est-ce qui en découle de tout ça pour les baptisés? Ça découle d'abord que le baptisé a des droits. Il a des droits. Et ces droits-là, je dois vous avouer que dans notre Église, on a pris du temps à les reconnaître. Quand on lit les documents législatifs, le Code de droit canonique, ou ce qui a précédé le Code de droit canonique qu'on a maintenant, là, le Code de droit canonique, c'est un peu comme l'équivalent du Code civil qui reconnaît les droits et les devoirs des citoyens. Bien, nous autres, dans l'Église, on a un code qu'on appelle le droit canonique et ça indique les droits et les devoirs qu'on a. Bien, ça a pris du temps avant qu'on reconnaisse que les laïcs avaient des droits. On les considérait comme des gens qui n'avaient qu'à écouter ceux qui avaient l'autorité dans l'Église, et puis le rôle des laïcs, c'était d'être bien fidèles, bien obéissants, et puis on ne le reconnaissait pas tellement de droits. Le nouveau droit canonique reconnaît les droits que le Concile leur a donnés, et en particulier les droits qui découlent du fait qu'on les reconnaît comme étant des serviteurs, mais des rois, des serviteurs, mais dans le sens royal, là, de l'évangélique royal, mais si on a ce devoir-là, on a aussi des droits qui sont attachés à ça. Et c'est pour cela que le Concile a reconnu que les laïcs devaient exercer un apostolat, mais que cet apostolat leur donnait une place dans l'Église. Et la place que les laïcs ont à exercer dans l'Église, En dépit des apparences, je dirais, ça n'est pas tellement de remplir les tâches qui étaient autrefois réservées aux prêtres, même si les laïcs peuvent le faire. Ça, c'est les tâches qui font que certains laïcs qui ont un appel en ce sens, qui ont la préparation suffisante, sont appelés à participer à la charge pastorale de l'évêque. Les agents et les agentes de pastorale dans nos paroisses, dans les hôpitaux, autrefois dans les écoles, mais maintenant ça n'a plus trop sa place, bien, ce sont des gens, des agents et agentes de pastorale, qui participent à la charge pastorale de l'évêque. C'est une façon d'exercer son apostolat. Mais la façon la plus courante, celle qui est spécifique, caractéristique du laïc, c'est d'être les témoins des valeurs évangéliques dans le monde. C'est ça, l'apostolat des laïcs. C'est rendre le monde plus humain et plus conforme à l'Évangile. C'est rendre le monde plus beau. Et je dirais que peut-être la plus belle formule qu'on peut employer pour dire le rôle des baptisés, c'est de contribuer à rendre le monde plus beau. Et ça, c'est une vraie belle vocation. Et ça s'exerce dans tous les domaines. Ça s'exerce au plan familial. Évidemment, être parent, c'est être porteur des valeurs évangéliques qu'on veut transmettre à ses enfants. Ça vaut au plan professionnel. Vous êtes avocat, médecin, notaire. Dans tous ces rôles-là, dans l'exercice professionnel de ce rôle-là, il y a toujours la dimension évangélique. Et ça fait parfois toute la différence au plan du rayonnement et au plan du témoignage qu'on donne. Et puis, ce n'est pas réservé aux professionnels, au sens général qu'on donne à ce mot-là. Là. Tout le monde peut contribuer à rendre le monde plus beau. Les gens qui ramassent les vidanges contribuent à rendre le monde plus beau. Il faut voir qu'est-ce qui arrive quand il y a une grève des éboueurs, là. C'est pas beau. Mais on finit par l'oublier. Mais quiconque contribue à rendre le monde plus beau, à rendre le monde plus joyeux, à rendre le monde plus conforme à ce que l'Évangile donne comme étant les bases du royaume de Dieu, ben, quiconque fait ça exerce son baptême et exerce son rôle de roi. Prêtre, prophète et roi. Donc, ça entraîne des rois, mais ça entraîne aussi des devoirs. Et le devoir, c'est évidemment d'exercer son baptême, d'exercer son sacerdoce. Et si on ne l'exerce pas, soit parce qu'on ignore qu'on l'a, soit parce que ça ne nous intéresse pas, les valeurs de l'Évangile, bien évidemment, c'est un sacerdoce qui est infécond. C'est un sacerdoce qui n'est pas exercé. Mais il est important qu'on en connaisse l'existence, qu'on en connaisse également les droits que ça nous donne à l'intérieur de l'Église, mais aussi qu'on soit conscient des devoirs que ça nous impose. Comment on l'exerce, le sacerdoce? Des baptisés, ben, je dirais la façon la plus éminente, c'est en participant à l'Eucharistie. Le prêtre ministériel là, est le ministre de l'Eucharistie, mais nous sommes tous des participants à l'Eucharistie, non pas comme des ministres du sacrement, mais comme participants à ce que le sacrement nous apporte. Et la preuve de ça, là, ou la façon de l'exercer, c'est de participer à l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, le prêtre arrive à l'autel, il baise l'autel parce que l'autel est le symbole du corps du Christ, puis tout de suite, il s'en va s'asseoir sur son fauteuil, parce que c'est lui qui préside à l'Eucharistie. Mais au départ, il ne fait pas grand-chose. Il y a du chant, c'est la chorale. Il y a des lectures, c'est des laïcs qui font la lecture. Les lectures, là, de la première lecture. Lui, son rôle, ça va être après de commenter la parole de Dieu. Ça, ça appartient à son rôle de prêtre. Mais la promulgation de la parole de Dieu, ça revient aux laïcs. Et puis, il n'est pas interdit aux laïcs non plus d'avoir à commenter la parole de Dieu, tout au moins comme catéchète. Le laïc peut aussi être témoin de la parole de Dieu, dans le sens qu'il peut témoigner de ce que la parole de Dieu lui inspire. Et ce n'est pas interdit que le prêtre, par exemple, puisse demander, il le fait assez souvent à une agente de pastorat, mais il peut demander à n'importe qui, à un moment donné, de rendre témoignage, de témoigner sur un sujet qu'il a commenté. C'est réservé au prêtre d'être le commentateur officiel de la parole de Dieu, mais ça n'interdit pas aux laïcs de le faire. Mais c'est pas rien qu'à la messe ça, que ça doit s'exercer. Les catéchètes, c'est en dehors de la messe qui font leur travail. Et puis, les parents qui aident les enfants à comprendre l'enseignement qu'ils peuvent recevoir, qui accompagnent leurs enfants qui se préparent au baptême, qui accompagnent les enfants qui se préparent au premier pardon, à l'Eucharistie, à la confirmation. Les gens qui préparent tout ce monde-là sont des témoins de la parole de Dieu. Et ils exercent vraiment leur sacerdoce de baptiser. Et ça, c'est important que ça soit mis en relief. Là, je fais une petite digression. Vous autres, ça vous a peut-être échappé, là, mais moi, je vais vous avouer que ça m'a tenu en haleine pendant plusieurs semaines. C'est que tout à coup, en lisant le journal, j'apprends que au dernier synode sur la parole de Dieu, on a voté une proposition qui demandait qu'on envisage la possibilité que les personnes, les laïcs baptisés, qui sont catéchètes, par exemple, puissent voir leur ministère reconnu d'une façon particulière. Ça a attiré mon attention parce que au dernier synode là, qu'on avait eu dans les années 93-94, j'avais publié une lettre pastorale conséquente à ça, et puis j'annonçais mon désir de créer, de reconnaître des ministères laïcs. Il y a des théologiens qui ont dit, ben faites attention là, parce que ça existe, ça, des ministères institués, je le savais, hein. Mais c'était réservé aux futurs prêtres puis aux futurs diacres. Car, en prévision du sacerdoce et du diaconat, on passe par des étapes. Et ces étapes-là, on appelait ça autrefois des petits ordres. Moi, quand j'étais, avant d'être ordonné prêtre, là, j'étais tonsuré d'abord. Ça, c'était pour rappeler que les moines, eux autres, ils se faisaient couper les cheveux, là. C'était pour rappeler que le prêtre devait, un peu à l'exemple des moines, être consacré, là, désormais, à se préparer au sacerdoce. Alors, la tonsure, c'était le premier indice du jeune séminariste qui se préparait à devenir prêtre. Puis après, mon Dieu, on passait par tout ça. On passait par portier, lecteur, exorciste, acolyte. Portier, c'était un peu pour reconnaître un peu ce que le sacristain a à faire à l'Église. Lecteur, ah, là, c'était de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Exorciste, c'est que on préparait le séminariste à invoquer par des prières, là, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il chasse le démon. Vous voyez que, parce que je vous ai dit du baptême, là, hein, il se préparait à faire des baptêmes par le fait même. Hein. Bon. Marqué qu'on n'exerçait pas ça souvent, parce que les possessions diaboliques, là, faut mettre la pédale douce là-dessus. Hein. On exagère parfois même en pensant que ça dépend du démon, puis ça dépend pas de la possession diabolique, pas du tout. Mais en tout cas, bon. Puis acolyte, c'était pour servir à la messe, servir à l'autel. Puis après, là, on avait les grands ordres, le sous-diaconat, le diaconat, puis la prêtrise. Alors, on a transformé ça, ce qu'on appelait les petits ordres, d'ailleurs, c'était une mauvaise façon de les appeler déjà. On a appelé ça les ministères institués. On a les mêmes étapes, on a regroupé les deux premiers, là, on appelle ça maintenant lecteur, et puis après acolyte, mais c'est les mêmes étapes, si vous voulez, mais on appelle ça des ministères institués. Puis ce que le synode demandait, c'est qu'on institue le ministère de lecteur, mais que ça soit accessible aux laïcs, même s'ils ne se préparaient pas au sacerdoce, donc aux femmes également. Et justement, la proposition disait, ça conviendrait particulièrement pour les femmes qui exercent ce ministère-là en grand nombre. Puis il faut le reconnaître parce que dans notre Église, là, c'est 80% des femmes qui font ces ministères-là. Alors, on souhaitait qu'on reconnaisse ce ministère, non seulement pour les futurs prêtres, mais pour les laïcs qui l'exercent, et en particulier les femmes. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup, mais là, ça a été drôlement compris. Il y en a qui ont dit, « Ah, tiens, ils sont en train de tranquillement, là, ils veulent que les femmes puissent accéder au sacerdoce, puis ils y vont par étapes. » Ça n'avait aucun rapport. Puis par ailleurs, il y en a d'autres qui ont dit, « Ils sont donc bien en retard, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Hein, les femmes qui peuvent lire... » On fait ça, nous autres, à l'Église, ben, ils ont mis en retard à Rome. C'est pas ça qu'on voulait dire non plus. On parlait pas du fait de pouvoir lire la parole de Dieu, c'était d'être des lecteurs, mais des lecteurs qui commentent la parole de Dieu, comme on le fait dans la catéchèse. Et ça, cette demande-là, qui sera peut-être exaucée, là, parce que je sais que c'est à l'étude à l'heure actuelle, hein, bien, pour moi, je trouve que ça serait très important parce qu'on reconnaîtrait une façon d'exercer son sacerdoce des baptisés, qui est d'être des personnes qui témoignent de l'Évangile, puis qui l'expliquent à ses enfants, à ses élèves, à ses jeunes qui se préparent au sacrement. Je trouverais ça important qu'on reconnaisse ça comme étant une étape, là, non plus réservée aux futurs diacres et aux futurs prêtres, mais à tout le monde. Tout ça pour vous dire que ça entraîne, ce baptême, ce sacerdoce des baptisés, des droits, ça entraîne aussi des devoirs. Et je vous disais que c'était surtout à l'Eucharistie que ça pouvait se vivre aussi, mais toute la première partie de l'Eucharistie s'est tournée vers les laïcs, vers les baptisés. Et le prêtre entre en scène lorsque... Il s'en vient au centre de l'autel, et là, c'est la partie sacrificielle de la messe. Mais à l'offertoire, il y a encore là des gestes qui démontrent à quel point le baptisé est important. Quand, par exemple, le prêtre s'en va au coin de l'autel et puis qu'il verse une goutte d'eau dans le calice, qu'est-ce qu'il fait? Il veut dire cette goutte d'eau. Ça représente les laïcs, ça représente les baptisés, et cette goutte d'eau qui est versée dans le vin, elle va être consacrée avec le vin. Et ça veut dire qu'on est vraiment participant à l'Eucharistie. On n'est pas rien que des gens qui assistent là. On est participant à l'Eucharistie. Et ce geste-là, qui peut paraître routinier, bien simple, est très, très, très signifiant. Et puis, évidemment, dans tous les sacrements auxquels on participe, il y a toujours cette dimension-là. Même que dans le cas du mariage, ce sont les ministres même du mariage, ce sont les baptisés qui se marient. Et puis, quand on se réconcilie par le sacrement de la réconciliation, on se réconcilie pas seulement avec Dieu, mais on se réconcilie avec l'Église. Parce que le péché porte atteinte à l'Église, porte atteinte à notre prochain. Quand on se réconcilie avec Dieu, on se réconcilie aussi avec l'Église, on se réconcilie aussi avec les baptisés, les autres baptisés. Et c'est omniprésent dans notre façon de comprendre notre baptême. Alors, je souhaite que ce que je vous ai dit, peut-être un peu précipité parce que c'est un sujet qui est assez costaud, là, bien, ce que j'aimerais que vous en reteniez, c'est que vous êtes vraiment prêtre, dans un sens véritable, tout en reconnaissant qu'il y a un sacerdoce qui s'ajoute dans le cas des prêtres. Mais c'est un sacerdoce qu'il faut exercer, qui nous confère des droits dans l'Église, mais qu'il faut aussi exercer. Sinon, c'est comme si on laissait son baptême là infécond, qu'on ne le développe pas. Pour moi, c'est une invitation pour vous à être des pierres vivantes. Et vous allez voir cet après-midi que même si ce sont les textes qui sont ceux du 11e dimanche, là, vous allez voir que ça revient dans l'actualité et nous allons réfléchir justement sur notre façon d'être des pierres vivantes dans cet édifice qu'est l'Église, cet édifice qui naît. L'édifice, là, c'est pas tellement la petite église avec un petit E qui est importante, c'est l'église avec un grand E, et nous sommes ces pierres vivantes de cette église avec un grand E, alors que nos églises avec des petits E, là, ben, on en perd quelques-unes, et puis on sait pas trop quoi faire avec. On a tellement mis l'accent sur les églises avec le petit E, puis avec des pierres qui ont coûté cher puis qu'on n'arrive pas à restaurer, mais alors que l'important, c'est beaucoup plus l'Église avec un grand E, et ça reste, et ça, c'est ce que nous sommes d'abord fondamentalement. Merci de votre attention.